Pour parler grains, torréfaction, dissolution, liquide, nous recevons aujourd'hui Florian Marco.
Bonsoir. Barista...
Bonjour. Bonjour, bonsoir. Barista de rue, patron du triporteur Florian Coffee, baroudeur comme Jacques Vabre, et malheureusement, il n'est pas un sosie de Georges Clooney, qui porte bien le papillon. Carré, petit, utile. J'adore les génériques comme ça.
Oui, tu manquais d'entraînement par rapport à l'année dernière. Je t'en prie.
C'est vrai. Ouais, bah, bon, à l'année prochaine aussi. Bon, bonsoir Florian, bonjour.
Bonsoir Chantal, bonjour.
Il est 11h du matin là.
Oui, en fait, je crois qu'il nous manque ouais, notre tasse de café en fait.
On va se réveiller alors.
Ouais, ah, encore. Bah alors, pour s'échauffer, raconte-nous ta première gorgée de café.
Ma première gorgée de café.
Oui.
Alors, ma première gorgée de café, la vraie, la, celle qui m'a réveillée, c'est dans un coffee shop à Barcelone. J'ai vraiment appris et dégusté la première fois un café dans un verre à vin. Donc une infusion de grand cru éthiopien, Mukasidamo d'Éthiopie. Voilà, et pour moi, ça a été une révélation. J'ai comparé ça au thé. Plus d'amertume, plus d'acidité, un vrai goût d'une graine qui est celle du café.
Mais voilà. C'était une infusion froide ?
Une infusion à chaud.
À chaud, donc, dans un verre de café.
Donc une Chemex pour les connaisseurs, donc une cafetière filtre. Mmh. Voilà.
Et alors du coup, on va ramener au, enfin aller au plus loin dans les souvenirs, mais ta première gorgée de café.
Gorgée de café, c'était du café pas bon comme tout le monde a l'habitude de boire dans les machines à café, du café soluble, du café. Il suffisait que ça soit un liquide amer et tout noir, où on rajoutait énormément de sucre. Enfin, pour ma part, en tout cas, quand j'étais plus jeune, et quand j'ai découvert vraiment le café. Enfin voilà, Barcelone, ça a été une révélation, et c'est pour ça que j'en ai voulu. Je veux en faire ma vie, quoi. Travailler dans le café.
Et du coup, tu t'es renseigné pour prendre des cours, pour tu t'es dit je vais m'orienter vers garçon de café ou tu t'es dit tu voulais café. Vraiment spécialiser en soit ce que tu voulais faire.
Ben en fait, je me suis spécialisé pour travailler en France. BBS s'appelle, c'est la première école de barista en France, une école aussi de bartender, donc de flair avec les cocktails.
Tu veux dire comme Tom Cruise dans Cocktail,
ouais,
tu balances
exactement.
Bah, le en l'air.
Le barista, c'est pareil, mais avec le café. Donc c'est une école complémentaire de bar. Voilà,
qui est privée.
Qui est privée, oui. Ouais, on peut se faire financer aussi. Par Pôle emploi, si on veut cette formation, il faut savoir que le barista, c'est un nouveau métier. C'est la personne qui travaille dans un coffee shop ou derrière un bar, mais qui s'occupe essentiellement du café, voilà, et des boissons lactées. Donc, il dessine entre le café et le lait. Enfin, il fait sur les cappuccinos, les lattés, macchiato, flat white.
C'est curieux comme boisson, parce que c'est sombre, enfin c'est une liquide sombre, enfin c'est amer, enfin, on verra plus tard que c'est finalement pas amer, mais
c'est une graine,
ça vient, ouais, ça vient d'où
c'est une
fait.
Graine qui est torréfiée, donc c'est une graine qui est grillée, donc c'est un arbre
graine...
qui fait des cerises, oui. dans cette cerise il y a deux noyaux, c'est ça le café, il est vert, on le récolte, on le fait sécher, il y a plusieurs méthodes. Et ensuite, une fois qu'il est séché, on le met dans des sacs de jute, le torréfacteur l'achète, et le torréfacteur, celui qui va griller le café. Donc ce grain vert, on va lui faire subir des chocs de température assez élevés pour pouvoir révéler tous ses arômes. Un café vert n'a pas du tout d'arôme. C'est un très bon antioxydant, mais c'est quand on le grille finalement qu'on révèle toutes les molécules qui vont révéler sa particularité, parce que tous les cafés sont différents.
Il y a aussi un traitement qu'on fait au café vert.
Mais avant ça, justement, cru, ça a quel goût, le grain?
Alors, cru, c'est une graine, comme une graine basique, finalement. Un goût de vert, ça n'a aucun intérêt, gustativement parlant, finalement.
Mais c'est excitant, en fait, même si on le mange cru.
C'est un antioxydant. Donc, c'est vendu à la pharmacie. Vous pouvez le faire tremper toute la nuit, donc du grain vert dans de l'eau froide. Et le matin, vous filtrez, vous buvez l'eau. Et voilà. Si vous voulez vivre plus longtemps, c'est la méthode.
Si on n'est pas le café.
Si on veut boire de l'eau.
De l'eau antioxydant.
Est-ce que c'est un peu comme le chocolat dont la fève est fermentée en fait par le récolteur, le récoltant, et du coup il y a vraiment un savoir-faire sur la manière de traiter le grain avant de le faire torréfier?
Alors il y a plein de méthodes pour faire griller le pour faire sécher et avant de justement griller et révéler les arômes. Il y a de la fermentation comme vous venez de le dire.
Oui, il faut.
Après, il y a plusieurs façons de
micro. C'est un métier, le micro, oui, pas de souci.
Du coup, oui, le café peut être fermenté ou pas. Le café, soit c'est un traitement lavé, il n'y a pas de ferment. Fermentation, on enlève de la pulpe la graine directement, soit on le fait sécher sur des tamis africains qui donnent une légère fermentation. Et si on veut aller encore plus loin, le café le plus cher au monde, c'est le café Luwak. Donc, c'est des petites mangoustes qui mangent les graines de café.
Ça, on va en parler un petit peu après. Donc, c'est le café le plus cher, oui.
Supposé. Voilà. Et en fait, c'est parce qu'il est fermenté dans la digestion exactement de l'animal. Et on le récupère dans les déjections. Et on fait griller tout ça.
Et quels sont les principaux pays producteurs de café
Les plus gros, déjà il y a deux espèces qui existent, il y a l'Arabica et le Robusta. Les plus gros producteurs d'Arabica, c'est le Brésil, la Colombie, des pays, l'Éthiopie.
Là où il y a plein de soleil en fait.
Voilà, mais le Robusta, c'est en Afrique et en Asie.
On fait du Robusta aussi en Afrique.
Oui, en Afrique. En fait, le café, il se cultive sous l'équateur.
Et donc, c'est deux espèces principales, d'après ce que j'ai compris. Le Robusta est arrivé après, mais en fait, il y en a plein qu'on ne connaît pas.
Il y a plein d'espèces de café, mais on en consomme uniquement deux.
Et parmi les deux variétés, deux espèces, il y a plusieurs variétés, non? C'est ça.
C'est comme le vin. Donc c'est des Arabes.
on donnera sur le site de l'émission cpu.pm justement des listes d'ouvrages et de sites spécialisés là-dessus. Mais du coup, on dit que le Robusta est moins bon que l'Arabica, mais il est arrivé comment?
Donc en fait, c'est deux espèces différentes. L'Arabica, il pousse en altitude. Et on sait que l'altitude va concentrer tous les goûts et arômes. Une fleur qui pousse en altitude va être plus aromatique, elle aura plus de couleurs que si elle pousse au bord de la mer. L'Arabica, il a un goût floral. Le Robusta, un goût terreux. Le Robusta est robuste, comme son nom l'indique, donc il va être facilement cultivé, On récolte beaucoup plus de fruits sur un Robusta qu'un Arabica, mais un Arabica, on va jusqu'à 2000 mètres d'altitude sur des pentes très abruptes, donc les personnes payées à récolter le café, elles sont très très nombreuses et c'est un travail vraiment difficile. C'est pour ça qu'il est important de bien traiter le produit de la fleur à la tasse.
D'accord. Voilà. Mais je trouve que le Robusta, il a une très mauvaise réputation ces dernières années. Enfin, c'est plutôt un café de...
C'est un café bas de gamme.
Désaïeux, en fait. Hein.
On dit qu'il n'y a pas de bon Robusta, mais on pourrait trouver des Robusta intéressants. Mais aujourd'hui, on essaye de avec la troisième vague qu'on appelle, la troisième vague, c'est le café que l'on compare au vin. La première vague, ça a été le café filtre, le café quand il est arrivé en Europe. Ensuite, ça a été une révolution de café américain, donc avec des coffee shops qui pullulent un peu partout en France, en Europe et dans le monde.
Bah, je tiens à préciser, hein, parce qu'ils ont l'esprit très mal tourné dans cette radio. Non, c'est vraiment coffee shop, hein, pas comme en Hollande.
Coffee shop, non.
Ah oui, oui.
Mais justement, alors la petite histoire, c'est que coffee shop, ça a été détourné il y a une soixantaine d'années par Starbucks, qui l'a pris au sens littéral du terme, alors que ça fait 200 ans que les coffee shops existent à Amsterdam.
Ah,
donc
d'accord.
Starbucks a créé le premier coffee shop, magasin de café, où on rentrait et on s'achetait une boisson avec du café. Café au lait, café américain.
Avec ce génie commercial quand même chez Starbucks, chaque fois qu'ils te demandent ton prénom pour mettre sur le gobelet, à chaque fois ils se trompent dans l'orthographe. Je sais pas comment ils font.
C'est grâce à ça qu'ils ont créé cette renommée.
D'accord. On parlait tout à l'heure, je reviens quand même à la conversation en fait sur les deux types principaux, Robusta et Arabica. Est-ce qu'il y a d'autres espèces et est-ce qu'elles ont justement des particularités gustatives ou elles sont complètement ignorées?
Alors, à ma connaissance, j'ai jamais goûté d'autres cafés que l'Arabica et le Robusta.
D'accord.
Le Robusta, j'ai jamais goûté un Robusta seul.
Mais c'est vrai qu'il est toujours mélangé.
C'est toujours du blend. C'est toujours du blend, un mélange, quoi.
C'est toujours un mélange. Souvent, on fait du 70-30. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, le café, il doit être fraîchement torréfié. Il doit venir d'une et seule plantation. Donc, il ne doit pas avoir de mélange. Et on doit révéler le goût de cette graine, de cette même plantation.
C'est un peu comme le vin où tu as les vins de négociants et les vins de producteurs.
Exactement, ouais. C'est exactement pareil. Et pourtant, ce n'est pas beaucoup plus cher. Un bon café de qualité, un café bas de gamme.
Et on a, en fait, donc il y a aussi bien des multinationales, on va parler tout à l'heure de Nestlé, ou justement des petits importateurs et tout ça. Toi, justement, est-ce que tu privilégies, est-ce que tu as une éthique justement sur l'achat sur ce que toi tu achètes pour ton échoppe, ou c'est vraiment trop compliqué à mettre en place?
Alors, la capsule, je suis pas contre. C'est un côté pratique. C'est une machine à capsule, ça vaut.
On va en parler tout à l'heure justement. Ouais. Mais en fait, toi, quand tu sers du café à tes clients, justement, c'est un café qui passe par un circuit particulier.
Alors moi, je fais attention à acheter du café de spécialité. Alors, en anglais, c'est Specialty Coffee. Donc, c'est un café qui est noté de 80 à 100, qui répond à une charte de qualité. Et c'est un café où, justement, voilà, on respecte de la fleur à la tasse. Donc, qui répond à une charte de qualité. Il a été bien récolté, il a été bien séché, il a été bien torréfié. Mmh. Et maintenant, à moi de le sublimer et d'extraire et de révéler tout son potentiel.
Quand on voit des marques comme par exemple Malongo qui se vantent de reverser aux producteurs et tout ça, s'il y a vraiment une différence, il y a vraiment une démarche de ce côté-là où il y a un peu, il y a pas mal de bullshit commercial.
Tu parles du café équitable.
Alors j'ai la réponse un peu à ça. Le café de spécialité, comme je viens de le dire, c'est 1 à 2% de la production mondiale. Du coup, tous les autres racontent un peu ce qu'ils veulent. Et en fait, le café que j'achète de spécialité, c'est un café qui n'est plus coté en bourse puisque je l'achète au-dessus du prix de la bourse.
D'accord, en fait le café
est coté en bourse tout à fait.
Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'Arabica à New York et le Robusta à Londres. Il y a les liens vers les cotations d'ailleurs. Je donne les liens vers les cotations directes.
Exactement, mais à partir du moment où on achète du café de spécialité, ce café-là est acheté plus cher. Donc, le producteur respecte le produit, donc le vend son produit qu'il fabrique, qu'il produit plus cher que s'il le vendait. Ça lui coûte bien entendu peut-être un peu plus cher à produire, mais certainement, ça, c'est un passionné qui respecte son produit.
Vous écoutez CPU sur Radio FMR et donc nous avons pour invité Florian Marco, je vais y arriver, du Triporteur, Florian Scoffi.
Oui, qui n'est pas italien.
Bah oui, bah à ton grand regret, tu vois. Et on continue d'ailleurs à parler du coup de comment le café et tout ça. Donc tu voulais faire une précision justement. Alors il faut que tu re-rapproches à nouveau le micro en face de toi. Tu voulais faire une précision. Tu avais dit qu'il y avait une troisième en fait de café, mais t'en as entendu parler qu'il est quasi légendaire puisqu'il serait français.
Oui.
Devant
alors.
Le micro.
Alors on sait que le café il pousse sous l'équateur, donc là. Ça serait un café qui serait naturellement décaféiné, qui pousserait en Nouvelle-Calédonie sous un arbre. Donc on l'appellerait le café soleil. Voilà pour la petite info.
Il porte un très joli nom.
Et voilà, un café qui pousse en France. Et non, tu veux pas, tu voulais pas en parler. Un café qui pousserait en France, mais qui serait décaféiné. Vraiment, on a un problème en France.
Mais d'ailleurs, la bonne question. Comment préparer un bon café chez soi?
Alors malheureusement tu lui as mis des petites chouquettes sous la main.
Fougères. Elle est en train de.
Et du coup c'est pas bien parce que tu as la voix un petit peu plus.
Comment préparer un bon café chez soi?
Ah oui, c'est la bonne question, mieux que grand-mère.
Il y a plein de nouvelles méthodes en fait.
Oui, parce qu'en fait il y a plusieurs.
Donc qu'est-ce que tu connais toi, Chantal, comme méthode par exemple?
Que je maîtrise.
Que tu maîtrises ou pas?
La
cafetière à piston, donc ça c'est la classique, la French press.
Oui, la French
press. Donc ça c'est une des préférées des Français. Après on a l'italienne.
Ah bon? L'italienne, c'est-à-dire la mocha, la percolateur.
L'italienne, c'est celle qu'on met sur le gaz, qu'on visse, et c'est un café qui extrait les méthodes sous pression. Mais j'aimerais parler de nouvelles méthodes comme l'aéropress, où il y a le même rendu en fait que la méthode italienne. On va utiliser la pression pour extraire les arômes du café. D'ailleurs, il y a 15 jours, il y a eu le championnat de France d'aéropress à Paris.
Je savais même pas qu'il y avait un truc comme ça.
Le café est en train vraiment de se développer. Et dans le monde entier d'ailleurs, on est vraiment en retard en France. Vraiment.
C'est étonnant parce que finalement, avec la vague des coffee shops, des salons de café, on a redécouvert les façons d'extraire le café.
Exactement, parce que
en fait les extractions courtes et les extractions lentes.
Alors, méthode douce. Donc on va utiliser des méthodes filtres. Donc on va utiliser.
Mais ça c'est la vieille. La première. Non, peut-être pas la première, mais qu'on connaît tous en fait.
Oui, parce que c'est facile, on utilise l'apesanteur. Donc il suffit d'avoir un filtre, du bon café, d'hydrater son café.
Et en plus, il y a une façon d'hydrater le café aussi.
Alors tout à fait, il y a deux
étapes. C'est très technique finalement.
deux étapes. On mouille à hauteur. On attend une trentaine de secondes que le café dégaze. Donc il va buller, il va s'oxygéner. Et ensuite, on remouille une deuxième fois. Il ne faut jamais dépasser 4 minutes, donc une bonne infusion.
Oui, parce qu'en plus, il faut chronométrer.
Exactement.
Il faut peser, chronométrer et aussi la température de l'eau.
Oui, mais c'est assez facile. Une fois qu'on a compris qu'il fallait 60 grammes au litre, du coup c'est assez facile. Il y a des cuillères doseuses qui nous facilitent la tâche. Et voilà, donc il y a plusieurs méthodes, les méthodes filtres, les méthodes, donc la Chemex, le V60, le Dripper.
Alors explique-les les unes après les autres. La Chemex, c'est quoi?
Alors déjà, c'est un très bel objet, je trouve.
Alors la Chemex, ça a été créé en 1942 par un chimiste allemand. Il est parti aux États-Unis parce qu'il buvait des allongés et il a fait un flop total. parce que les Américains boivent des vrais cafés dégueux, c'est-à-dire un espresso qu'on allonge avec de l'eau, pour casser l'amertume, et au final on en rajoute. Pour les Français aussi, ils rajoutent de l'eau dans leur espresso. Mais dans le café de spécialité, on dit qu'il n'y a pas de café. Le café allongé n'existe pas. On va le remplacer justement par toutes ces méthodes-là. Chemex, V60, Aéropress, piston.
Donc Chemex, c'est quoi en fait comme mécanique? Ça se passe comment pour le café?
C'est un café filtre.
Alors c'est comme une carafe.
D'accord.
Voilà. Au-dessus, on met un filtre. C'est un filtre en cône. On va mettre le café dedans et on va verser l'eau pour créer une infusion en fait.
D'accord, ok. Ensuite, tu as parlé donc de différents systèmes à pression. L'aéropress, oui.
Alors, ça c'est impressionnant, je trouve.
Alors l'aéropress, il y a une ventouse, c'est un tube. On met le café dedans. On met un filtre et en fait, la ventouse, elle pousse l'air qui va extraire le café sous pression. Donc, il y a une texture plus épaisse, un peu comme la cafetière italienne, justement. Voilà.
Mais au goût, du coup, c'est comment par rapport à la cafetière italienne?
C'est un peu la même chose. Quasiment pareil. Le duel peut se faire, la comparaison peut se faire. Pour moi, ça brûle moins le café en aéropress que sur la cafetière italienne et c'est bien plus facile de le faire.
Oui, parce que c'est comme pour le thé où il ne faut pas mettre le thé dans l'eau bouillante. Le café, si on le passe dans l'eau bouillante, en fait, on dénature beaucoup.
On le brûle.
Alors voilà. Justement, ce que j'ai remarqué avec les salons de café... C'est que là, derrière, on redécouvre le café, mais la température m'a choquée. Enfin, choquée dans le bon sens du terme, en fait. Parce que le café n'est pas brûlant. Enfin, il est vraiment chaud. Voilà. Mais pas brûlant. Je trouve qu'on redécouvre un peu les saveurs. Les saveurs qu'on ne connaissait pas avant, en fait. Hein. Donc, c'est impressionnant, cette maîtrise de température aussi.
Ben, pour que ce soit café filtre, café machine de bar, espresso, il y a trois éléments qui sont importants, donc la mouture, son poids et le temps.
Oui, le temps d'infusion.
Et le temps d'infusion
la température. L'origine.
Non, mais tu me parlais de quoi là juste avant?
De température, hein, de café.
De température. De et la température. Donc c'est 96 degrés.
D'accord, ok. Ah, c'est vraiment une marge très étroite quoi en fait. Pour,
ouais,
la
en
température
fait,
idéale.
Enfin, ça dépend les méthodes qu'on fait, ça dépend le café qu'on va utiliser. Pareil, c'est pas la même mouture. Si on veut faire une Chemex, on va peut-être pas moudre un Guatemala de la même façon qu'un Éthiopien. si on veut bien faire la chose, un grain de café va se moudre, ça dépend de sa densité et son humidité, il va se moudre plus ou moins gros et ça va influer le temps d'infusion.
Ouais, c'est ça qui m'a toujours impressionné quand on va commander du café en grains et qu'on me propose en fait de moudre le café. On me dit, oui, mais alors, qu'est-ce que vous avez comme machine? C'est pour quel usage? Et donc là-dessus, c'est assez précis, quoi. C'est pas n'importe comment.
Exactement.
Si on le moue plus fin, ça va pas aller forcément plus vite, quoi.
Si on le moue plus fin, ça va aller plus lentement.
D'accord.
Si on le moue plus gros, ça va aller plus vite, puisque l'eau va s'écouler facilement, en fait, entre les grains. Si on moue fin, ça va devenir de la farine, et si je mets de l'eau sur de la farine, ça passe pas.
D'accord.
Donc, et
j'ai vu une méthode de passage de café à froid, où ça prend une nuit complète.
Ah là là.
Et c'est les Japonais qui font ça.
Appelé le cold brew.
Le cold brew, le café 24.
C'est une extraction, exactement, une extraction à froid. Donc moi, j'en fais. On va vendre des petites bouteilles cet été.
Il faut les commander très largement à l'avance, c'est ça?
Oui, presque. Exactement. C'est du café qui peut couler entre 12 et 48 heures, si on veut.
Ah, c'est fou.
C'est du café goutte à goutte.
Faut pas être pressé.
Donc ça ressemble à.
Ça s'appelle un peu la slow food.
Ça ressemble un peu à la chimie, à des alambics. Donc on fait passer le café dans un système.
Oui, la colonne de condensation à boule et tout ça, ce qu'on utilise d'habitude pour faire le mettre, quoi.
Ouais, mais c'est tout est à froid, hein. Tout part d'en haut et c'est avec la gravité que tout se passe.
D'accord. Et ça, donc, c'est, d'après ce que j'ai compris, c'est d'origine japonaise. C'est devenu une mode relativement récemment, pour une raison quelconque ou purement gratuitement.
À cause de l'été.
C'est
une boisson froide.
On consomme de plus en plus de bons cafés et que l'été, il faut boire quelque chose de frais et que c'est une boisson extraordinaire puisque l'extraction à froid, on a vraiment le goût du café. C'est pas du tout un double espresso glacé. On va avoir le goût du café qu'on a choisi, Guatemala, Éthiopie, dans un fond. Dans une bouteille, cette bouteille, on peut la couper avec du citron, avec de l'alcool, avec du lait, avec de l'eau gazeuse.
Et du coup, on redécouvre vraiment le goût du café, un café auquel on est habitué. On peut avoir des sensations totalement différentes.
Alors le café. Pour nous, on n'a pas de culture ou très peu de culture dans le café. Donc pour nous, le café, c'est quelque chose de noir, amer. Et on rajoute du sucre. Le café, c'est pas ça. Le café, on le grille pour révéler ses arômes. S'il est trop grillé, il est amer. La méthode douce, une torréfaction de goût douce, on grille moins le café. Et on révèle ses arômes et ça devient surprenant. On n'a plus l'impression de boire du café, l'impression de boire une autre boisson parce que justement celle-ci n'est pas amère, n'est pas acide et voilà.
C'est vrai que personnellement j'ai du mal à boire d'autres cafés par la suite. Enfin, je veux dire les autres cafés avant. Je veux dire quand on a goûté une fois au café de spécialité,
Quand on sait pas ce qui est, mais c'est pour ça qu'on n'a pas de culture, parce que quand on sait pas ce qui est bon, on peut pas le choisir. Mais quand on sait ce qui est bon, on peut le comparer avec quelque chose qui ne l'est pas. Et c'est là où si on s'intéresse à une chose, on peut faire la différence entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et c'est pareil pour le vin, on en revient à la même chose.
Et
une bonne bouteille, une mauvaise bouteille. Pas que le prix, il y a le goût, il y a...
Ouais,
mais la
différence entre le café et le vin, c'est que dans le vin, tu vas pas mettre du lait dedans. Est-ce que c'est une hérésie de mettre du lait dans le café?
Alors, le... Le lait, non, c'est merveilleux de mettre de lait sur le lait dans le café. D'ailleurs, des laits, on peut en mettre plein. On peut mettre des laits de vache, mais des laits aux amandes, des laits végétales, des laits de soja, des laits de riz. Et ce qui est super intéressant dans le café au lait, c'est le latte art qu'exerce le barista. Il fait des contrastes en versant le lait dans le café de couleurs qui forment des signes comme des cœurs, des feuilles ou plein d'autres dessins. Bien surprenant.
Oui, on mettra des liens vers quelques...
Pour certains, c'est des œuvres d'art, voilà.
Ouais, c'est extrêmement impressionnant. Et du coup, ça, pour l'apprendre, il faut combien de temps pour ne serait-ce que faire une feuille ou une fleur
On dit qu'il faut passer de 100 litres de lait. Donc, le plus compliqué, c'est monter à la buse vapeur. Donc, incorporer de la vapeur dans le lait pour qu'il soit onctueux.
Ah, c'est le truc avec l'espèce de bus sur le côté qui
le
fait
bus,
pshhh,
le bus, voilà, qui fait du bruit, bah, c'est ça. Et il faut justement pas que ça fasse trop de bruit. Sinon, on brûle le lait, et y a une température, pour tous les barman qui nous écoutent, il y a une température très importante à respecter. Déjà, on utilise du lait entier pour que ça soit plus onctueux et plus homogène. Et les 70 degrés, vraiment, si on les respecte pas, on va brûler la protéine de lait et le lait va être indigeste. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont intolérants au lait, mais c'est souvent parce qu'ils ont pas fait attention et qu'ils ont trop fait chauffer leur lait.
Et nous continuons CPU avec Florian Marco du Triporteur Florian's Coffee, interviewé par Enflammé.
Incroyable cette histoire. Alors, était possible de boire du café en capsule, enfin du bon café en capsule? Est-ce qu'il y a une alternative?
Alors, il est difficile de faire.
Parce que le problème, oui, justement.
On peut acheter des capsules et les faire soi-même. Le problème, c'est que il est très, très important que le café soit bien conservé.
Est-ce que l'ennemi du café, justement. L'ennemi du café, c'est l'air.
L'air, exactement.
L'air, la lumière aussi.
Et du coup, c'est intéressant parce que, en fait, Nespresso, le système original, est un système qui est complètement hermétique. Et la plupart des cartouches dites compatibles, en fait, on a un sur-emballage, on a trois emballages successifs, puisqu'en fait, c'est déjà pour eux à la base, puisqu'ils modifient un petit peu. Donc, en fait, c'est vraiment pour ça, pour éviter que l'air... En fait, des natures, puisque c'est un café qui est très finement moulu en plus.
Ouais. Oui, il est très fin.
C'est des capsules hermétiques, en fait.
Les originales, oui.
Ah, ok. Bon.
Normalement, dans les capsules, on rajoute pas mal de choses. Il n'y a pas que du café.
Des conservateurs,
des colorants,
des lentilles humidité.
Et surtout un gélifié alimentaire pour produire la crème.
Waouh.
C'est ça le truc.
Vous verrez la prochaine fois.
Oui, c'est étonnant ça, parce que je trouve que la mousse est très dense.
La mousse est très dense. Comparer une créma de vrai espresso et une mousse d'un Wattels. Donc je pense que il y a qu'une seule méthode de faire son bon café, c'est le moudre. Acheter du café moulu chez un petit torréfacteur qui lui-même achète du bon grain vert d'un petit producteur.
D'avoir une machine expresso à la maison, en fait.
Non, pas avoir une machine espresso.
Mais si on veut un bon espresso le matin.
Ça dépend ce qu'on veut. Si on veut un café allongé, si on veut un espresso à la maison, si on veut un espresso à la maison, il est possible d'acheter des machines qui moulent le grain et des machines instantanées qui moulent le grain et qui vous font de magnifiques espressos. Et là, il n'y a pas de gélifié alimentaire ni d'additif. Le problème, c'est que dans la capsule, on ne sait pas ce qu'ils mettent dedans. Et le café, ce qui est sûr, c'est qu'il est vieux.
Il est moulu depuis un certain temps.
Et torréfié surtout.
C'est vrai que oui, dans les paquets de café chez le torréfacteur, on connaît la date de torréfaction.
Exactement, parce que pour avoir une belle créma, il faut que le café soit torréfié et bien conservé de moins d'un mois.
Donc,
s'il a deux mois, déjà, il y aura moins de crème sur le café.
Et quand on dit que le café moulu se conserve au frigo, c'est vrai ou c'est juste de la superstition?
Alors, le café, c'est quelque chose qui est gras. Tout ce qui est gras, ça capte les odeurs. Mmh. Donc, si on le met au frigo, ça va capter l'odeur du frigo.
Il ne faut pas le mettre à côté du beurre ou du brie, quoi.
Ouais, du brie ou du camembert.
ou du roquefort,
si
soyons fous.
Si vous voulez faire un petit café au maroilles, ben, vous mettez dans un tupperware du maroilles et du café. Non, je rigole. Le mieux, c'est une boîte hermétique, tout simplement. Mmh. Voilà, mais faut acheter régulièrement, en petite quantité, son café. Ce qui est vraiment très important, c'est de le moudre au moment. Sinon, le grain de café est trop sec, ce qui fait que l'eau va ruisseler sur le café et pas capter ses arômes.
D'accord. Ouais, mais là, je crois qu'il va avoir un problème. Si je m'amuse à moudre le café devant les collègues qui sont en open space au téléphone avec les clients, ça va hurler, quoi. mais c'est pour faire un bon café. Ça va être très mal vu. On parlait tout à l'heure justement d'un des cafés les plus chers au monde, qui est le Kopi Luwak, qui en fait est un café où en fait sont des bestioles qui le consomment et qui le digèrent. Est-ce que vraiment ce café est fait avec des bestioles sauvages, puisqu'on dit qu'il y aurait beaucoup de torture animale?
Il paraît qu'il y a plus,
alors,
plus sauvages.
On ne va pas faire un espresso avec ce genre de café. C'est une infusion qu'on va faire. Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On ne va pas faire un espresso à 40 euros la tasse. On va vous faire une méthode, c'est un chaud à table. Donc c'est une espèce d'alambic aussi, pareil, et on vous sert le vrai café Luwak, c'est ça. Vous allez payer 30, 40 euros la tasse, mais par contre, il y a toute une cérémonie, et c'est pas un espresso qui coule en 25 secondes. C'est un café qu'on va faire infuser, et comme la Chemex
tu l'as goûté,
ou on peut même le faire au cold brew si l'on veut, mais non, j'ai jamais eu l'occasion de goûter à cette merveille. Il y a une fermentation, c'est la fermentation qui doit être intéressante gustativement parlant. En fait, c'est pour ça qu'il est cher, c'est parce que il a été fermenté, mais sinon qu'est-ce qu'on lui a donné à manger à ce Luwak? Est-ce que c'est du bon café? Est-ce que c'est du Robusta? Si c'est du Robusta Luwak, j'en bois pas.
malheureusement, oui, justement, les bestioles qui le font, il y en a qui, à ce qui paraît, les capturent et les mettent dans des cages un peu comme des poules. Et comme ce sont des rongeurs, ça le supporte très très mal, quoi.
Il y a ceux qui le font bien et il y a ceux qui le font moins bien.
Du café qui n'est pas vegan.
Mais voilà, c'est du café qui n'est absolument pas vegan. Mais on peut récupérer ça aussi de singes, d'éléphants.
D'accord. Du café,
c'est simple. On leur donne des cerises de café à manger et puis on récupère ce qu'il y a à récupérer.
D'accord.
Mais je croyais que justement, la spécificité du café de cet animal, justement. Ah oui, oui. Oui.
Oui, termine. Mais
C'était de. Parce qu'elle choisissait les bons grains de café, en fait, elle les sélectionnait.
Non, on ne sélectionne pas. Quand on vous donne à manger, vous ne sélectionnez pas.
Florian Marco, merci beaucoup d'être venu.
Merci.
Pour parler de ton art et de comment on pourrait améliorer notre café. Et donc, justement, du coup, ça nous laisse découvrir pas mal de choses encore gustativement. Et de quoi me retourner l'estomac quand même avec le café, c'est que j'en bois vraiment trop.
On va se mettre au déca.
Ah non, surtout pas. Merci à tous et j'espère que vous allez boire
merci, Florian.
Du bon café dorénavant.
Merci à toi.